L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous le savez, comme notre invité Bilal Hassani, je n'aime pas beaucoup les cases et les étiquettes. C'est pourquoi je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas citer un philosophe dans l'équipe est sauvage. Un philosophe qui disait « Il ne faut pas écouter les bruits du monde, mais le silence de l'âme ».
On dirait du Confucius.
Non, Jean-Claude Van Damme. Décidément, Caro, vous n'êtes pas notre expert littérature pour rien. Et aujourd'hui, vous nous entraînez à la BNF pour la plus importante rétrospective tolkienne de l'histoire.
Exactement. De manière planétaire même, ça n'a jamais été vu et ça ne se reverra jamais de l'aveu de l'organisateur parce que c'est trop compliqué de chercher tout ce qu'on trouve dans cette exposition. Je vais vous expliquer. Je rappelle d'abord Tolkien, J.R.R. Tolkien.
C'est quoi ? Dites-nous déjà ce que ça veut dire J.R.R.
Je sais plus.
Le mec il vient faire un sujet sur Tolkien, mais moins deux points,
toujours.
Moins deux points tout de suite, c'est un scandale.
J.R.R. Tolkien.
Mais vous auriez pu inquiéter, mais sur Wikipédia, on peut le vérifier tout de suite.
Renoual ou Renoual, je sais plus.
Oh, j'ai l'imprécision totale. Bilal Hassani est effondré. Du niveau du journalisme européen.
John Ronald Reuel Tolkien.
Voilà, heureusement qu'Eva Rock est là.
Mais on dit toujours J.R.R. Tolkien.
Oui, d'accord. Pas une excuse.
1892-1973. Je rappelle qu'il a écrit Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit, ça a été publié en 1937. C'est l'histoire donc, d'un hobbit, Bilbo, qui habite à Cul-de-sac, qui est très tranquille, qui aime d'ailleurs sa tranquillité. Et un jour, il y a Gandalf, un magicien, qui vient le voir avec 13 nains, mais pas les nains de Blanche-Neige, des nains guerriers, et qui lui demande de les aider à aller combattre le dragon Smaug qui cache un énorme trésor sous une montagne. Et il faut passer tout un tas d'épreuves avant d'y arriver. Lui, il n'a pas du tout envie, mais malgré lui, il est embarqué là-dedans et l'aventure commence. Ensuite, il y a le Seigneur des Anneaux, donc en 1954, qui n'est pas une trilogie, comme on le dit parfois, qui est un roman d'un seul tenant, mais qui, pour des raisons éditoriales, a été coupé en trois. Voilà, ça a été publié en 1954. À l'époque, ça a eu son petit succès, mais c'était pas complètement dingue. Aujourd'hui, on est à plus de 150 millions d'exemplaires vendus. Et en fait, Tolkien a écrit ça un peu par hasard. Tolkien, c'est un professeur d'université extrêmement sérieux d'Oxford, linguiste, spécialiste des langages nordiques notamment, et extrêmement sérieux, mais qui, le soir, pour ses enfants, dessine et écrit des histoires. Et notamment, il a écrit des tonnes de lettres au Père Noël, parce que ses enfants écrivaient au Père Noël et lui répondaient. Mais bon, on peut tous faire ça, sauf que Tolkien, et on voit ses lettres à la BNF,
elles sont dans,
notamment.
Ouais.
Ce sont des dessins hyper bien faits, avec une vieille écriture, comme si ça venait justement du pôle Nord, ou d'un truc nordique, viking, on sait pas trop, scandinave. Et voilà, il répond, et les gamins étaient comme des fous. Et donc, il a écrit tout ça, et il dessinait aussi. Il dessinait merveilleusement bien des aquarelles, notamment, il dessinait ses univers et ses cartes. La carte du Seigneur des Anneaux, c'est ce qui fait commencer le roman à Tolkien. C'est en dessinant la carte qu'ensuite il place ses personnages et ses histoires à l'intérieur de la carte. Et à la BNF, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit les coulisses de la création. C'est-à-dire que sur la carte, sur des documents, des brouillons, on voit les itinéraires des personnages. Et parce qu'il calculait tout pour que le même jour, des personnages qui ont pris des itinéraires différents se retrouvent le même jour avec la même lune. Il calculait les lunes aussi pour que si un personnage voit la pleine lune, et ben l'autre personnage qui est à l'autre bout du pays doit voir la lune qui correspond le même jour. Voyez.
Excusez-moi, je me permets, ça me fait penser à Game of Thrones, tout simplement, la carte.
Game of Thrones, c'est clairement inspiré de cet univers.
Ça doit être
Tolkien.
Un amateur de Tolkien.
Il faut se rendre compte que Tolkien, en fait, c'est Dieu, quoi. C'est-à-dire que c'est un.
J'aime la neutralité des journalistes d'Europe 1 aussi.
Mais lui, il serait pas content que je dise ça parce qu'il était trop croyant, mais c'est quand même un démiurge absolu. C'est-à-dire qu'il a créé un monde, des personnages évidemment, mais aussi des langues, des religions, des peuples entiers. Et quand je dis des langues, à la BNF, on peut voir un arbre des langues. Il y a le Valarin, le Kudzul, le Orkien, la langue des orques, le Noir parlé, ça c'est la langue de Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Et il n'a pas juste dit, voilà, il parle Orkien. Il parle Orkien, on peut parler elfique aussi. On peut parler la langue des elfes.
Créer un univers avec des pays, des mondes, des langues, ça me fait penser aussi à Star Wars. Est-ce que vous m'avez dit 53, est-ce que George Lucas, au moment de concevoir la Star Wars, il n'a pas imaginé justement, il n'a pas réfléchi de la même manière, c'est-à-dire en créant d'abord un univers avec des planètes, des langages.
Absolument, mais on peut dire aussi que Tolkien s'est inspiré d'abord beaucoup des légendes médiévales, du roi Arthur, etc. Et Star Wars, George Lucas s'est inspiré des légendes médiévales aussi, et de Tolkien, évidemment. Et il y a eu toute la retraduction ensuite du Seigneur des Anneaux, Et c'est incroyable, parce qu'on peut voir à la BNF, on voit son bureau aussi, des trucs comme ça, des objets propres à Tolkien, mais aussi des documents de travail incroyables. Les tapisseries d'Aubusson. À Aubusson, ils ont fait des vraies tapisseries, ça a pris plusieurs années de travail, qui reproduisent les aquarelles de Tolkien, qui illustrent des instants du Seigneur des Anneaux.
Bilal Hassani, on va à la BNF voir cette expo, ça vous intéresse Tolkien ?
Moi ça m'intéresse parce que j'ai un frère obsédé par le Seigneur des Anneaux, j'aimerais bien connecter
comprendre.
Un petit peu avec lui parce que moi je suis plutôt Star Wars.
Donc, ah d'accord, ah parce que Star Wars pourtant c'est avant les films de Star Wars. Mais,
ouais,
ah,
oui. Mais je suis obsédé par Star Wars. Mais
ah, carrément.
Contre, j'ai pas eu le moment de la connexion avec, avec l'univers de Tolkien, donc ça pourrait être intéressant.
Merci en tout cas Nicolas Caro, Alain Sirou, quelque chose à ajouter à ce stade ?
Avouez qu'aujourd'hui, le rosé a bien retrouvé ses lettres de noblesse.
Oui, merci, merci, merci. Europe 1. À suivre, il vient clairement d'ailleurs, soit des anneaux de Saturne, soit plus vraisemblablement du bar PMU en face d'Europe 1. Directeur de la revue Ciel et Espace, pour asseoir son autorité sur les stagiaires, il arrive souvent en s'exclamant
« Les spatioréacteurs ont été endommagés par une turbulence thermoépidermique d'une amplitude 6. »
Ça ne veut rien dire, mais ça fait le type qui s'y connaît en science. Alain Sirou arrive pour nous parler espace et musique, puisque les sondes voyageurs qui viennent de quitter le système solaire embarquent avec elles des sons et des tubes de nos plus grands artistes. Quelle sera la première star intersidérale ? Sur quel artiste tomberont en premier les extraterrestres ? Imaginez !
Donne-moi ton cœur, bébé, ton corps.
Ça serait certainement la guerre des mondes. Et rapidement, on en parle juste après.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, le 16-18 en prise avec son époque. Wesh Mekai, avec la Pinko, Eva Rock, la Rihanna du 06, on kiffe Vaugras, notre invité du jour. D'ailleurs, Eva était en PLS quand elle a appris qui on recevait aujourd'hui. Je lui ai fait la prise sûre, je lui ai dit « Demain, Eva, on reçoit une star qui parle aux jeunes. » Elle m'a dit
« Julie Pietri. »
C'est là que j'ai compris qu'on partait de loin. Bilal Hassani passe l'après-midi sur Europe 1.
Quand j'arrive sur la piste, les regards se tournent tous à la fois. Je vois bien que même immobile, bébé, j'ai plus d'empathie.
Dernier représentant de la France à l'Eurovision, votre album Kingdom vient de ressortir avec des titres inédits. Vous avez aussi plusieurs dates prévues. Là, on a dit que vous avez fait l'Olympia. Eva, vous donnez-nous les dates à venir.
Alors, je vous donne celles du mois d'octobre, en tout cas. Ce sera le 24 à Bordeaux, le 26 à Lyon, le 27 à Clermont-Ferrand, le 30 à Toulouse. Et puis, vous continuez votre tournée tout au long du mois de novembre avec une date à Paris aussi, au Trianon. Et ce sera le 18 novembre. Petite salle,
Le Trianon, c'est le 18 avril 2020.
J'ai
joué, Eva. Imaginez la déception des gens qui vont se pointer.
Oui. Ah ben moi j'ai 18 novembre
et qui vont
sur ma fiche. Bah c'est pas grave.
Il y aura Maxime Le Forestier à cette date que vous avez citée.
Donc la tournée, dure jusqu'en 2020 en tout cas, mais c'est des petites salles par rapport à l'Olympia de lundi dernier.
Bah, en fait, on a décidé d'annoncer un Trianon quand on a vu que l'Olympia était complet parce qu'il s'est, on s'est retrouvé complet très vite. Et j'avais envie de faire une autre expérience parce qu'à l'Olympia, je voulais l'aspect très classique en fait du lieu. Avec une fosse assise, donc en fait on avait laissé les sièges en orchestre pour avoir les allées, parce que je voulais faire passer les danseurs et tout. Et bon, je spoil un petit peu en avance parce que c'est que le 18 avril prochain, mais le Trianon, ça va avoir rien à voir, c'est un autre spectacle en fait qu'on propose. Ça reste dans le Kingdom Tour, mais c'est un petit peu genre plus une club expérience, donc tout va être réarrangé,
on
va être en fosse debout, et même moi je vais descendre
danser.
Et tout et tout. Donc j'avais besoin d'une salle un peu plus petite pour que ça soit vraiment ambiance club. Voilà.
C'est amusant Bilal parce que hors antenne, on parlait musique ensemble et j'ai l'impression que vous aimez tous les styles musicaux, vous êtes un peu un touche-à-tout musical.
Ouais.
Et là, la vidéo dont on parle beaucoup, c'est votre duo avec le rappeur Al Capote.
Exactement.
Monarchie absolue. Alors moi, qui ne connais pas grand-chose au rap, pour moi Al Capote c'est un rappeur un peu sexiste, un peu limite homophobe, qui balance beaucoup de gros mots. On peut difficilement imaginer un duo plus improbable qu'entre Al Capote et vous. Comment la rencontre s'est faite ? C'est quoi l'histoire ?
Alors, l'idée venait pas vraiment de moi, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier, quand j'ai gagné la chance de représenter la France à l'Eurovision, les fans d'Al Capote ont lancé une pétition pour qu'il me remplace. Alors moi, à ce moment-là, ça m'a fait un peu rire et j'ai vu que beaucoup de gens signaient cette pétition. Et je me suis dit, mais qui est ce monsieur ? Qui est ce Al Capote ? Et donc, en fait, on a fini par se rencontrer. Via mon producteur, on lui a proposé de faire un duo. Là où il y a beaucoup de gens qui refuseraient de faire un duo avec moi juste par la peur de se mouiller. Oh non, je ne peux pas faire la chanson avec le gars qui a la perruque, ça va ruiner ma réputation. Lui, il nous a dit genre, ah trop bien, trop cool, on y va. Donc on est allé en studio ensemble, on a fait ce morceau ensemble parce qu'aujourd'hui on peut faire des collaborations à distance chacun de notre côté.
Oui,
mais je voulais vraiment
qu'on
partage le moment en studio. Et on a vraiment kiffé, on s'est retrouvé à faire ce clip. Il est venu à l'Olympia en guest, en surprise, donc c'était un moment assez fou. Et en plus, on a annoncé qu'on fait une série, en fait, tous les deux, qui s'appelle Flic, F-L-I-C-S, qui parle de nos deux aventures à lui et moi, l'inspecteur Capote et l'inspecteur Assani. Et
ça sort Good Cop, Bad Cop, c'est un peu l'idée.
C'est un peu
l'idée.
Good Cop, Bad Cop, un peu Bad Boy, un peu Starsky & Hutch, et ça sort en janvier 2020 sur YouTube.
Ouais, mais est-ce qu'il est plus tolérant dans la vie que ce qui peut apparaître dans ses clips ou dans ses chansons?
En gros, c'est un personnage, en fait, où...
J'ai pas envie de briser le mythe sur l'empereur, mais c'est quelqu'un de vraiment gentil. Et là, on est en train de commencer sur le scénario en fait de la série et on pleure de rire parce que c'est excellent en fait. Et il est à fond, je suis à fond et on s'éclate bien, on fait bonne paire.
Un parcours inspirant, le sien, il se raconte dans Singulier, disponible chez Plomb. Bilal Hassani, notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, on reproche souvent aux scientifiques d'abuser d'un jargon technique incompréhensible finissant par rendre les choses les plus simples compliquées. Ce n'est clairement pas le cas de notre consultant Alain Sirou, même si tout à l'heure, quand il nous a demandé si on avait fait du café, j'ai mis un peu de temps avant de percuter.
Avez-vous lyophilisé les grains d'atomes caféinés sous pression hydraulique filtrée?
Oh la vache, Alain tentera d'être plus clair dans sa chronique où il nous révèle quel tube la NASA a envoyé dans l'espace à l'intention des extraterrestres. Nous saurons donc, en cas de contact, qui sera la première star intergalactique.
Julie Pietri.
Non, toujours pas. Toujours pas. Non, on l'a pas envoyé.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage avec Mathieu Noël sur Europe 1, c'est vous qui en parlez le mieux.
Ah oui, je vois qui c'est, mais je sais pas du tout qui c'est en fait.
Mathieu Noël, 16h, 18h sur Europe 1.
Je vous emmerde la régie. Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. 2 heures hybrides à mi-chemin du journalisme et du musical, de l'info et du burlesque. Une émission qu'il faudrait des heures pour décrire dans ses nuances éditoriales, son parti pris artistique. Mais Keva Rock, ma complice, a l'art de résumer de manière plus simple par ses mots.
Bienvenue dans le monde de la connerie.
Bienvenue Bilal Hassani dans cette émission qui, elle non plus, ne rentre dans aucune case. Vous nous présentez aujourd'hui votre livre témoignage singulier chez Plomb. Un livre où vous écrivez que lorsque vous étiez petit, vous disiez à votre mère, je cite, « Je chanterai pour les aliens et c'est comme ça que je deviendrai la première star intergalactique. » Dans la tête d'Alain Sirou, ça a fait... Budget. Alain... Budget européen. Alain, vous êtes notre consultant scientifique et vous avez décidé de prendre au mot Bilal et de regarder l'offre de musique déjà proposée aux éventuels aliens. Autrement dit, quels sont les compétiteurs au titre de meilleur tube interstellaire? Tout ça est très sérieux.
Ah bah c'est très sérieux parce que moi j'adore l'idée d'aller chanter pour les extraterrestres. D'abord, on ne sait pas qui c'est. Oui. Il y a peut-être des reptiliens. Puis on ne sait pas s'ils existent. Mathieu me pose la question régulièrement. Oui. Mais je vais vous parler de la seule mission qui a emporté un disque. Alors évidemment, c'est du physique, hein. C'est un petit disque qui fait 30 cm de diamètre.
Mais il faut qu'ils aient un lecteur, un Discman.
Ah oui, mais quelqu'un qui est capable d'aller chercher une sonde dans l'espace, il a sans doute les moyens de décoder aussi. Mais il y a le mode d'emploi. Et en 1977, on a envoyé deux sondes dans l'espace qui s'appellent Voyager 1 et Voyager 2. 77, pour vous resituer l'époque, c'est Carter est à la Maison Blanche, Brejnev est au Kremlin et Giscard à l'Elysée.
D'accord.
Ça vous donne la distance à peu près. Donc c'était il y a 42 ans et des astronomes, en particulier un astronome qui s'appelle Carl Sagan qui s'intéressait comment on communique avec des gens qu'on ne connaît pas. Finalement, comment on parle à l'inconnu, à l'extraterrestre.
Et la musique peut être un bon moyen, c'est vrai que c'est universel.
La musique peut être un bon moyen. Il a mis donc sur ce disque, en fait, des images, des sons. Alors on entend le vent, on entend la pluie, on entend les grenouilles, on entend les dauphins, etc. Et puis il a mis des musiques. Alors, les musiques, il a mis des musiques du monde, mais il a aussi mis des chansons. Et j'ai sélectionné pour vous 5 extraits de ce que des extraterrestres dans 40 000 ans ou plus pourraient entendre comme première chanson venant de la Terre. Écoutez. D'accord. Le premier. Vous avez reconnu, voilà, Johnny Lee Good, Johnny Lee Good de Chuck Berry. Et donc, ça, ça décoiffe quand même pour les étoiles.
Ça décoiffe. Dans 40 000 ans, je ne suis pas sûr que ça décoiffe quoi que ce soit. Mais...
voilà, ça aura peut-être un peu vieilli. Deuxième chanson. C'est une péruvienne et c'est une chanson, pour les mariages. C'est quelque chose qui se chante devant le marié au moment où on va se marier. Troisième chanson. Alors là, vous reconnaissez Mexique.
Ouais. Exactement.
Mariachi. Lorenzo. Barcellata, moi je ne connais pas. C'est l'ambiance. Encore une fois, c'est ce moment où on fait la fête au Mexique avec toute cette foule autour des mariachis. Quatrième extrait.
Ah oui,
ah, oui de l'opéra,
un peu de musique classique.
Flûte enchantée.
Et Dame Zer en soprano pour la flûte enchantée de Mozart. Oui. Là aussi, dans le ciel, c'est quelque chose qu'on imagine extraordinaire.
C'est magique.
Mozart, Beethoven, etc. Cinquième extrait.
Ah, c'est un autre trip.
Ça, ça
là,
va, c'est en Asie, ça, non?
Non, au Tibet,
c'est
non
en Australie.
En Australie, aborigène,
un exactement, c'est un chant aborigène. Pourquoi les aborigènes? Parce que les aborigènes sont aussi ceux qui ont un contact direct avec le ciel. Ils racontent des histoires, des légendes dans les constellations. Il y a un lien avec...
Ah, tout ça a été mûrement réfléchi.
Tout alors. Ça a été mûrement réfléchi. Et surtout, c'est la diversité qui compte. Mmh. Et moi, oui, ce que j'adore, c'est ce côté, finalement, est-ce que ça ne sera pas les chants des baleines qui seront retenus par les extraterrestres finalement. Essayons un peu pas tout. Donc, on n'en sait rien, on sait strictement rien. Et la fiction d'ailleurs a utilisé cette idée que on captait à l'extérieur des champs de la Terre et on savait pas ce qu'était la Terre. On entend par exemple dans ce disque un train et on se dit c'est un train ancien, c'est un vieux train. Non, c'est un train de 77 et on voit que ça a vieilli déjà. Donc
dans 40 000 ans, ça risque...
Communiquer avec l'extraterrestre, c'est communiquer avec l'ailleurs. C'est communiquer avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est au bout du compte, parler de soi. Le ciel, l'univers est un miroir. Et quand vous chantez dans le ciel, eh bien vous chantez pour nous sur la Terre. Très beau miroir. Miroir, est-ce que je suis toujours le plus beau?
En plus, il avait une chute. Dites-moi, Alain Sirou, est-ce qu'on n'aurait pas oublié... Non, c'est 77, c'est parti trop tôt, parce qu'on aurait quand même pu mettre Bohemian Rhapsody de Queen, quand même, sur cette qui a été élue plus belle chanson de l'histoire en Angleterre.
Tout à
ça
fait.
Aurait été beau, quand même.
Il y a
même
plein
alors
de chansons qu'on peut...
Oui,
mettre.
Je voulais dire, la première sonde devra arriver en l'an 40 272, c'est exact, près d'une petite étoile de la Grande Ourse. Voilà, on lui souhaite bon voyage pour l'instant.
Mais vous pouvez nous raconter, Bilal, ce qui s'est passé avec votre maman quand vous lui avez dit que vous vouliez être, vous vouliez être le chanteur intergalactique?
J'étais très sérieux et je suis encore très sérieux. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de prendre un vaisseau spatial, oui, et de donner un concert quelque part là-haut. Je sais pas par quel moyen, mais je veux le faire. Lady Gaga devait le faire.
Ah bon?
Elle l'a pas fait. Ouais, c'était un avion, une sorte d'un vaisseau spatial bizarre, mais qui allait pas très loin.
Non,
mais
qui sort de l'atmosphère, juste.
Exactement.
Et on se retrouve dans
juste de l'atmosphère.
Mais vous pouvez le faire. On va contacter Elon Musk. Elon Musk, il doit
voilà,
avoir un
moi, je veux bien qu'avec SpaceX, avec Elon, on parte faire
sur la Lune. Sur la Lune,
sur
ça
la
sera faisable
Lune,
dans le futur, sur une base lunaire.
Sur une base lunaire, faire un concert, un truc en duplex et tout, comme ça, tout le monde peut voir. Mais... Et donc, je disais ça à ma mère quand j'étais petit. Oui, je veux chanter sur Mars. Je veux que les aliens m'écoutent et tout. Et tout. Donc,
sur Mars, ça va être plus difficile.
Très compliqué.
C'est un petit peu chaud. La salle sera très, très chaude sur Mars. Bilal, on imagine que bon, c'est plus votre rêve numéro un de chanter pour les aliens. Est-ce que c'est quoi votre rêve aujourd'hui? Maintenant, vous avez fait l'Eurovision, l'Olympia, tout ça, dans un espace temporel très réduit. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est peut-être de durer. C'est ça le plus dur dans ce métier aujourd'hui avec l'offre musicale.
Je ne suis pas en train de réfléchir à la durée. Je suis en train de réfléchir à trouver mon équilibre dans ce monde qui est un petit peu ça m'a un petit peu tapé dessus, ça m'est tombé dessus très vite malgré le fait que je prépare ça depuis des années et des années et des années. Quand ça arrive de manière aussi intense très rapidement, c'est on a besoin de s'ajuster, de s'adapter. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi le tourbillon, et donc je veux m'adapter, me sentir bien dans mon élément, et je veux surtout continuer à m'amuser, à faire ce que je fais. Moi, je fais pas uniquement de la musique pour avoir de la reconnaissance et pour que genre trois personnes disent ah mais si lui il est connu. Le but c'est que je m'éclate quand je crée de la musique, et s'il y en a 3 000 ou 30 000 ou 300 000 qui m'écoutent, c'est pas le chiffre qui m'importe, c'est la connexion que je peux avoir avec ces personnes-là qui compte vraiment.
C'est pas le chiffre qui compte, mais il y a quand même plutôt 300 000 que 3 000. Singulier, c'est le titre de son livre, Le témoignage d'un enfant humilié devenu roi. Bilal Hassani passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, elle est indéniablement la caution jeune de notre émission. Ses collègues, plus ringards, ont d'ailleurs du mal à la comprendre lorsqu'elle emploie des expressions de jeunes des années 2000.
Ah bah où ça?
DTC.
Mais qu'est-ce que ça veut dire DTC?
Eh oui Bilal, on en est là. Dans un instant, tremblez, un quiz va vous opposer à la Rihanna du 06. Quelqu'un va souffrir, mais pas forcément vous.
Sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, deux heures d'une folle compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 et parfois aussi entre les journalistes d'Europe 1 et notre invité. Oui, Bilal Hassani, votre pouce accélère, des frissons d'angoisse parcourent votre corps et c'est normal, vous allez affronter Eva Rock dans un combat singulier et intellectuel. Or, quand on connaît la puissance neuronale d'Eva, pour rappel...
Et 22 mois, ça ferait...
Arrêtez avec
3
ça.
3 ans. 3 ans, il y a 3 balisés. Hein. Alors, chaque jour...
Je suis nul en chiffres.
Ah oui, non, mais, oui, mais comme ça, vous êtes deux.
Bah, voilà.
À chaque jour, un thème en rapport avec l'invité, pour vous, Bilal, qui justement agaçait ceux qui ont du mal à comprendre qu'on puisse être ni homme, ni femme, ni queer et réciproquement, on a décidé de vous faire un quiz sur le thème homme-femme. Vous êtes opposé à une femme qui aime les hommes, qui aime les femmes. Eva Rock, une bonne réponse, un point. Arithmétiquement, vous suivez, Eva?
Oui, là, ça va.
Très bien. Alors, ouais. C'est parti. On commence avec vous, Bilal Hassani. Le record du monde de lancer de disques est plus important dans la catégorie femme que homme. Vrai ou faux?
Je vais dire vrai parce que j'aime les femmes. Et c'est toujours les meilleures.
Et vous avez raison. Le record masculin est de 74 mètres. Le record féminin, de 76 mètres. Alors, même si le disque pour les femmes fait 1 kg
et, voilà, moins long. Ouais.
Et 2 kg pour les hommes, c'est la seule discipline où c'est le cas, où les femmes sont plus fortes que les hommes sur le même exercice. Eva Rock, les ouragans qui ont un prénom féminin sont en moyenne 3 fois plus meurtriers que ceux portant un prénom masculin. Vrai ou faux?
Non, c'est faux, parce que... Non, c'est faux.
J'aime quand vous répondez vite, quand vous avez comme ça une certitude.
Non, c'est faux.
Oui, c'est faux. Eh bien, c'est vrai. Eh oui, et il y a une explication, Eva. Il y a une explication. Non, non, ne soyez jamais sûr de vous. Les populations se méfient moins quand ce sont des prénoms féminins en associant la féminité à la douceur. Résultat, de 1950 à 2012, on compte en moyenne 15 morts pour un ouragan au prénom d'homme, 41 pour ceux au prénom de femme. Et voilà. Pam,
il va y en avoir un de mort supplémentaire, vous allez voir.
Mais calmez-vous. Mais ce n'est qu'un jeu, Eva. Ce n'est qu'un jeu. Elle me déteste de plus en plus viscéralement, j'ai l'impression. Attention, vous jouez tous les deux, les amis. C'est une maladie très rare et elle touche certaines femmes. Quel est le symptôme? 3 propositions. 1. Une surdité qui fait que les femmes ne peuvent plus entendre les hommes. 2. Une allergie épidermique qui ne concerne que les femmes avec les poils du torse des hommes. Elle ne supporte pas ça. Ou 3, une défaillance du cerveau qui fait que les femmes arrivent à faire un créneau.
Ah,
oh, qui m'a mis cette question?
Ah, c'est moche.
Alors là, je me désolidarise de la personne qui a écrit ce quiz. D'après vous?
Vous diriez quoi, vous, Bilal?
Moi, je dirais 2, le truc
d'allergie,
des poils.
Une allergie aux
et
poils de torse.
Et le premier, c'était...
Une surdité qui fait que les femmes ne peuvent plus entendre les hommes.
J'aimerais trop que ça soit ça. Je vais dire la 1.
Vous dites la 1 au hasard? Oui, oui. Parfois, le hasard vous porte chance, Eva. Effectivement, c'est la 1. C'est une surdité en pente inversée, à savoir une perte auditive sur les fréquences les plus graves. On estime à 466 millions le nombre de femmes qui ne peuvent pas entendre les hommes.
Vous comprenez
mieux. Béni soit-elle. Eva Rock, quand il y a des soldes, elles sont exceptionnelles.
Oui.
E2LES ou exceptionnel ELS?
Ah merde. Enfin merde, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais.
Restez poli.
Je dirais féminin, donc 2LES. Mais j'ai un gros doute.
C'est
en
un
fait.
Doute
c'est
justifié puisque c'est faux. Exceptionnel ELS, le mot est masculin, souvent utilisé au pluriel. Une solde, c'est quoi? C'est le salaire du soldat.
Oui.
Ça n'a rien
exact.
À voir. Bilal Hassani, attention, cette question va vous départager.
Oh.
Le poisson, la murène à longue queue, est femelle de 5 à 12 ans, puis devient mâle jusqu'à la fin de sa vie à 40 ans. Vrai?
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, il le sait. Et non, c'est faux, c'était un piège.
Ah,
c'est dégueulasse, c'est honteux. Faux, c'est vrai pour le mérou. Il est capable de se reproduire vers 3-5 ans.
Juste,
il devient mâle généralement vers 9-12 ans.
Non, elle est pourrie, votre question.
Attention, réclamation déposée. On donne le point quand même à Bilal qui remporte
c'est
le
génial,
quiz.
Quand t'es invité,
mais
tu
oui,
gagnes quand même.
Ouais, c'est toujours bien. Ça, c'est bien fait cette émission. Il y a un thème aussi que vous abordez largement dans votre ouvrage, Bilal Hassani, on en parle depuis tout à l'heure, singulier chez Plon, c'est celui du cyberharcèlement dont vous avez été et vous êtes toujours victime aujourd'hui, malgré votre popularité. Vous recevez toujours des messages. À une époque, c'était une fréquence hallucinante. J'ai oublié le chiffre exact, mais c'était toutes les minutes.
Toutes les 6 secondes, non? Toutes les 6 secondes, vous aviez
un message.
Oui,
c'est toujours
message.
La même fréquence. Ça,
c'est vrai.
Oh non, Internet, ça va toujours plus vite. Jamais, ça ne se ralentit pas, en tout cas.
Comment vous faites pour rester si souriant face à ça? On imagine que d'autres, à votre place, auraient pu être détruits par ces messages. Ça arrive, il y a des jeunes qui souffrent beaucoup de ça.
Mais je souffre beaucoup de ça, c'est juste que je vois pas l'intérêt. Enfin, j'ai pas envie d'appuyer sur le fait, sur ma tristesse ou mon mécontentement. Mmh. Parce que j'ai pas envie de donner un message un mauvais message aux personnes qui me suivent. J'ai pas envie de leur dire voilà, vous pouvez baisser les bras et être triste et pas, parce que moi c'est ce qui m'arrive souvent, d'être juste triste, de pas savoir quoi faire, mais des fois il y a d'autres jours où je vais garder la tête haute et pouvoir ignorer la vie de gens idiots sur Internet. Mais c'est vrai que c'est compliqué de vivre avec ça. Les gens ne réalisent pas du tout l'impact que ça peut avoir sur un être humain, j'ai l'impression, parce que même mes amis qui m'aiment et qui me soutiennent, j'ai une amie à moi qui a été confrontée à la même chose que moi très récemment, au même niveau en fait, et elle est venue me parler, elle m'a dit bah en fait on te disait est-ce que ça va, mais on se rendait pas compte parce que là maintenant je suis en train de vivre ce que tu vis et c'est horrible en fait, mais c'est vraiment une sensation de, en fait t'as l'impression que tout le monde te déteste
alors qu'en fait c'est juste quelques personnes sous couvert
d'anonymat. Ouais, mais c'est beaucoup de personnes finalement.
Ouais, c'est beaucoup de personnes, mais
c'est ouais, c'est une minorité bruyante, on va dire, ouais. mais très très bruyante.
Son voilà. livre témoignage s'intitule Singulier chez Plomb. Bilal Hassani est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, il en va du monde du journalisme comme du monde de la chasse. De même qu'il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, il y a le bon journaliste et le mauvais journaliste. Le mauvais journaliste va partir sur des sujets faciles comme la situation humanitaire en Syrie, les enjeux pétroliers au Moyen-Orient ou la titrisation d'actifs sur les marchés d'échange. Et puis le bon journaliste, lui, va avoir le courage de s'attaquer aux vraies questions de fond. C'est le cas de Benjamin Péter, notre correspondant à Toulouse, qui aurait pu se tourner les pouces à Peshawar. Non, il a enquêté sur le plus long Scooby-Doo du monde. Ce sera juste après.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures à la frontière du divertissement et du journalisme, en présence d'un invité vedette. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est la rencontre des deux idoles des jeunes. D'un côté, Bilal Hassani, 603 000 followers sur Insta. De l'autre, moi, 4 906 000. Ah non merde, 4906 followers sur Insta. Ok, bon, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Le tout, c'est d'être number one dans ce qu'on fait. Moi, mon truc, c'est le journalisme. Et CNN n'a qu'à bien se tenir, car voici un reportage sur le Scooby-Doo, le plus long du monde. Je l'ai montré à Eva tout à l'heure en antenne.
C'est énorme.
Oui, elle était toute chose. Bonjour Benjamin Péter.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Bonjour.
Ce sont des élèves d'une école de Haute-Garonne qui se sont lancés dans ce défi. Au départ, un projet pour occuper les enfants, sauf que maintenant, tout le village s'y est mis.
Oui, ça a commencé il y a un an quand une animatrice du centre de loisirs de l'école de Castelnau d'Estrée-de-Fonds qui voyait les enfants faire des Scooby-Doo s'est dit bah, pourquoi pas tenter de faire le plus long du monde. Jusque-là, il était établi à un peu plus de 900 mètres, c'était faisable. Oula. Alors ils ont commencé à tisser des Scooby-Doo, 1, 2, 10, des centaines. Sauf qu'entre-temps, bien, une nouvelle école, l'établissement Fondada, a ouvert dans le village et Gwenervé, l'animatrice en question, a imaginé de relier les deux écoles entre elles.
Les enfants étaient séparés, les animateurs, les enseignants. Et du coup, c'est vrai que ce projet permettait de relier les deux écoles à la fois sur un projet commun et à la fois symboliquement en déroulant un Scooby-Doo qui rejoindrait les deux écoles.
Ce geste-là que vous faites, vous l'avez fait combien de fois ?
Alors là, je suis en train de préparer le Scooby-Doo pour qu'il puisse le tisser ensuite parce que le démarrage n'est pas facile. Et là, en un an, je pense que j'en ai fait 10 000 peut-être.
Et du coup, Inès, qui avec la nouvelle carte scolaire a été séparée de pas mal de ses copines, elle est ravie de les retrouver grâce à ce projet.
J'avais une copine qui s'appelait Julia, une autre qui s'appelait Lilou et une autre qui s'appelait Zélie qui sont parties à Fondada et j'étais triste parce que c'était mes meilleures amies.
J'ai hâte de retrouver mes copines s'ils font les Scooby-Doo comme nous.
Oh, alors Benjamin, mignonne. Tout ça est bien mignon, mais moi vous me connaissez, je suis un compétiteur et j'ai envie de savoir, est-ce qu'ils ont une chance de battre le record ?
Ben, ils m'ont montré où ils en sont. Ils ont enroulé leur gigantesque Scooby-Doo autour de grandes bobines en bois. Et actuellement, ils en sont à un peu plus d'un kilomètre 400, pas mal quand même. Autant dire que pour le record, c'est bon. Mm-hmm. Sauf qu'entre les écoles, ben, y a un kilomètre 700 à parcourir. Et maintenant, c'est ça leur priorité. Ça fait pas moins de 15 000 Scooby-Doo au total. Du coup, ben, tout le monde s'y met. Les clubs de sport, les bénévoles de la Croix-Rouge, même le club du troisième âge. C'est devenu un projet intergénérationnel. Et Francis, par exemple, vient régulièrement déposer un paquet à l'école.
Là, il y en a 50. Et j'en fais à peu près 100 tous les 15 jours. J'en ai fait beaucoup, moi. J'en ai fait à peu près 1300, 1500. Ça me détend. Puis en même temps pour les jeunes. Puis en plus, il va y avoir un record du monde. Et alors là, c'est encore mieux, quoi.
Voilà, alors grâce à Francis et à tous les autres, il devrait être prêt pour l'homologation du record. Ce sera le 16 novembre avec un géomètre, un huissier notamment. Puis ensuite, tout le plastique de ce grand Scooby-Doo sera recyclé en une œuvre d'art exposée dans la future médiathèque de Castelnau d'Estrée-de-Fonds.
Et Eva Rock.
Et Benjamin, rassurez-nous, les enfants, ils vont quand même à l'école, ils font quand même leurs devoirs,
ils apprennent
encore
Scooby-Doo.
Des choses.
Évidemment, ils font ça dans le centre de loisirs. Et là, comme en plus, c'est les vacances, bah là, ils peuvent en faire à fond des Scooby-Doo.
Ben, on va leur en envoyer deux.
Scooby-Doo-Bidoo. Merci Eva Rock, merci.
Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue. Bilal Hassani, vous restez avec nous. Deux nouveaux concurrents s'apprêtent à nous rejoindre. On parlera notamment des dangers du chemsex, cette pratique qui consiste à faire l'amour sous drogue. Qui sera élu journaliste du jour ? Hélas, pas moi. Je suis hors compétition, même si j'imagine que vous êtes nombreux à voter malgré tout pour moi chaque après-midi, tant ma maestra vous fascine. Diable, c'est vrai que je suis bon, surtout dans la diction. Peu de présentateurs peuvent parler aussi vite que moi sans riper. Je l'ai encore démontré hier. Ce n'est pas celle qui a été prise en 66. Attends, là, je recommence. On ne sait ni où elle a... Bah oui, c'est 66 en fait, parce que je me suis corrigé. Mais celle plus belle d'un petit garçon et son vélo dans une cité minière du Niort. Oh, la vache !
Dans une cité minière du Niort.
Préparez le son pour demain avec Oh les champions derrière.
Oh les champions !
Alors, on peut pas être tous les jours au top. À tout de suite.
Sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
J'espère que vous avez l'estomac bien accroché car vous êtes au cœur d'une bataille plus sanglante que l'épisode 7 saison 2 de Game of Thrones. Les protagonistes eux-mêmes de ce féroce pugilat sont à deux doigts de défaillir, même Alain Sirou.
On peut sentir une odeur de vieille cave à vin, oui. De moisie, oui, oui. D'humidité, de champignons en décomposition.
Non, Eva, je vous avais dit de passer chez le dermato. Bref, chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre culture. J'ai vraiment un seul montra, non pas sur le trône de fer, mais sur mes musculeuses cuisses. Pour être couronné, lequel, c'est vous qui décidez. Deux nouveaux concurrents arrivent pour nous parler notamment des dangers du chemsex, cette pratique qui consiste à prendre des drogues avant l'acte sexuel.
Ouais, vous avez vécu dans le monde de la télé, vous savez ce que c'est.
Bon, je vous en prie, Eva, ne mélangeons pas tout. Bon, tiens, ah, il est déjà 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
L'équipée sauvage continue 2 heures pour, selon les mots du DRH d'Europe 1, trier le bon grain de livret parmi les journalistes de la rédaction. Parmi nos 4 journalistes en compétition aujourd'hui, un seul sera élu chroniqueur du jour sous l'œil d'un invité vedette qu'on apprend également à découvrir dans la partie interview de cette émission. Une partie qu'on pourrait baptiser les grands entretiens d'Europe 1, où les stars se confient comme jamais, comme hier Catherine Sellac. Vous vous baignez à Saint-Malo ?
Oui, je me baigne à Saint-Malo.
À quelle température vous pouvez vous baigner, Catherine Sellac ?
Eh bien, jusqu'à 15.
Bilal Hassani nous révélera-t-il jusqu'à quelle température il peut se baigner à la boule au mois de septembre ? Restez avec nous. Bilal, qui représentait la France en mai dernier au concours de l'Eurovision, il nous présente aujourd'hui son livre « Témoignage singulier » chez Plomb, un parcours inspirant pour tous ceux qui se sentent différents et qui n'entendent pas changer pour faire plaisir aux autres. On continue d'en parler. Le temps simplement, Bilal, de vous présenter nos 2 derniers concurrents du jour. Et quels concurrents ? Ils sont au championnat européen ce que le Real Madrid et le FC Barcelone sont à la Liga espagnole, respectivement premier et deuxième du classement. Je vous présente d'abord celui qui a vécu lui aussi comme Bilal le harcèlement, les colibés, victime d'une terrible maladie stigmatisante, la troboïte. Cette maladie qui consiste à être trop beau et à ne plus supporter d'être trop beau, comme l'avait finalement analysé Manu Payet.
Mais non, mais j'aime pas.
J'aime pas être beau.
J'aime pas être beau, d'accord ?
Bonjour Alice. Vous vous en sortez bonjour, quand même, mais... ça va ? C'est pas trop dur ? Vous voulez un soutien psychologique ?
C'est pour ça que je fais de la radio maintenant. Ouais. J'ai arrêté la télé.
Ah. Oh, vous êtes vraiment chum. Hein. Je l'aide. Hein. Il faut toujours aller dans le sens du patient. Oh, cette bedaine là. Tâchez au moins de rentrer le ventre pour notre invité. Alice, vous êtes notre spécialiste innovation. Avec quel sujet allez-vous garder la tête du championnat européen aujourd'hui ?
J'espère. Avec un sujet d'actualité. Hein. Vous avez entendu parler des manifestations d'agriculteurs depuis hier. Mmh. Vous connaissez le classique hein. 2000 manifestations. Manifestants selon la police, 200 selon le.
Plutôt l'inverse.
2000 selon les organisateurs, 200 selon la police. Bah, tout ça, c'est terminé.
Pourquoi ?
Maintenant, on va avoir une intelligence artificielle qui va compter les manifestations un par un.
À vos côtés, Nice, si elle est maligne, elle va tenter de vous déstabiliser sur votre point faible.
Ça fait quoi d'être un sexe symbole ?
Ça ne lui fait rien, enfin regardez-le, on dirait Sim croisé avec Giant Coucou, pour les amateurs de bonnes séries des années 90. Ève Roger, vous êtes la chef du service société d'Europe 1. Jouons franc jeu, vous devez votre deuxième place à vos sujets. Un brin racoleur qui parle soit de drogue, soit de sexe. Là, vous nous faites un strike puisque vous nous parlez de drogue et de sexe en même temps.
Et oui, wow. Je vais vous parler d'une nouvelle tendance qui s'appelle chemsex et ses adeptes, les chemsexeurs, une pratique sexuelle qui explose en France, mais qui inquiète les autorités sanitaires.
Vous avez déjà entendu parler de ça, Bilal Hassani ?
Non.
Non ? Vous allez découvrir. Attention, ça fait peur. Les dangers du chemsex ou l'intelligence artificielle à la rescousse de la police, quel sujet aura vos faveurs ? Réponse peu avant 18h. En attendant, on va essayer de mieux connaître, de mieux cerner notre invité, Bilal Hassani, dernier représentant de la France à l'Eurovision en mai dernier. On est allé vous poser la question dans la rue, qui est pour vous Bilal Hassani ?
Mon Dieu.
Bilal Hassani.
C'est un garçon atypique, qui s'habille d'une bonne manière.
Il faisait des vidéos YouTube et il est passé à la télé, il a fait l'Eurovision, c'est ça ?
C'est pas l'Autrichien, parce qu'il y a un Autrichien qui a fait ça aussi. Il avait en plus la barbe.
C'est un homme, c'est ça ? Enfin, qui est devenu une femme.
C'est bien, c'est une autre visibilité. C'est une visibilité queer.
Alors après, on peut repartir aussi à l'époque de Louis XIV, où les hommes se maquillaient, portaient des perruques, portaient des talons hauts, ok. Bon.
Je l'ai croisé dans la rue il y a quelques semaines en plus, et j'ai
Lydia, c'est Bilal Hassani.
Oui, oui, je le kiffe, ouais. Bah, parce qu'il s'assume et tout, genre. Et en plus, il fait de la bête de musique, c'est bien.
Il a les sourcils très bien faits, plutôt petits et minces.
Quelqu'un d'original qui sort de l'ordinaire et qui s'assume aussi. Ça fait du bien un peu des personnes comme ça.
Il s'assume et en plus il fait de la bête de musique, ça c'est le compliment rêvé.
Ça, ça fait plaisir, moi j'aime trop celle qui a dit tu fais de la bête de musique, si vous pouvez trouver son contact, je lui enverrai une petite note.
Mais ça, c'est un peu le problème avec vous, Bilal, moi aussi je ne connaissais pas votre musique et c'est vrai que c'est bien, mais c'est vrai que l'image que vous donnez est tellement forte, c'est tellement votre personnage de scène est tellement fort, ouais, que forcément les commentaires portent peut-être d'abord sur la manière dont vous vous habillez que sur la manière dont vous chantez, c'est peut-être un petit peu
ouais,
dommage ça.
Ouais, complètement, bah, je ne sais pas si c'est, en fait j'ai pas envie de le calculer non plus trop. C'est pas dommage ou très bien. Bon voilà, on parle beaucoup de mon apparence parce que je sais pas, pour tout le monde c'est quelque chose de complètement farfelu parce que j'ai décidé de porter une perruque, donc c'est la fin du monde et donc ça fait débattre beaucoup, mais après je sais que il y a un million de personnes qui me suivent et qui écoutent les morceaux, qui regardent les clips, qui se prennent l'album, qui viennent à la tournée et c'est pour eux que je fais la musique. Quand, si vous vous intéressez à la musique, c'est cool, sinon peut-être un jour, voilà. Mais je chante avant tout.
Il y a quelques semaines, on a découvert un clip extrêmement touchant de la chanson Je danse encore, dédiée à votre maman Amina. Elle a été un soutien, votre maman, mais vraiment un soutien sans faille depuis vos débuts. C'est elle qui vous a compris dès le départ. Elle a toujours été un soutien pour vous.
Elle a toujours été derrière moi. Elle m'a surtout tout le temps suivi dans mes folles aventures et mes projets un peu fous, sans à aucun moment me dire de baisser les bras. Alors qu'il y a plein de fois où quand même, moi j'ai commencé vraiment à essayer de rentrer dans ce monde de la musique, à enregistrer des chansons, etc. très jeune. J'ai commencé avec une formation très classique au conservatoire, etc. Mais à partir de mes 11-12 ans, j'ai commencé à toquer aux portes des maisons de disques avec ma mère. Et donc maman s'est battue pour moi. Elle s'était inscrite à une salle de sport juste en face d'une grosse maison de disques. Et elle laissait des démos tous les jours dans la boîte aux lettres et tout. Et elle s'est vraiment battue pour que ça fonctionne parce qu'elle voyait à quel point c'était quelque chose qui comptait pour moi. Et nous, on n'avait peut-être pas les moyens d'enregistrer, de louer juste un studio d'enregistrement ou des trucs comme ça. Et donc maintenant, quand elle voit tout ce qu'on peut faire, elle est très contente.
À vous entendre, il n'y avait pas d'alternative dans votre vie. C'était la musique ou rien. Il n'y avait, ouais, avait pas une autre voie, il n'y avait pas un autre métier, une autre.
J'avais pas de plan B, non.
Il n'y avait pas de plan B.
Non, il n'y avait aucun plan B. J'ai toujours voulu faire que ça. Et donc, quand c'est ce que j'écrivais dans les petits formulaires qu'on fait à la rentrée des classes et tout, j'écrivais chanteur, et c'est tout. et en fait, c'est au moment où on réalise son plan A qu'on découvre son plan B. Et donc, depuis que j'ai donc sorti mon premier album, etc., j'ai trouvé le truc que je pourrais faire sur le côté et tout.
Mais c'est quoi, ce secret?
Je vais pas le dire. Non, je peux en parler. Mais c'est toujours en rapport avec la musique, mais j'aimerais bien reprendre les études. Et étudier à la Berklee School of Music à Boston.
Prestigieuse école musicale.
C'est très cher.
Oui.
Donc il faut que je vende beaucoup de disques avant de pouvoir faire cette école.
Et ce sera
mon plan B, voilà.
Et acheter son livre singulier chez Plomb. Bilal Hassani est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Eva Rock, Eve Roger, Anis et Mbida sont à mes côtés. Anis et Mbida qui s'apprête à nous parler de l'intelligence artificielle qui débarque dans la police. Comment, pourquoi, il vous explique. Et de grâce, Eve, cessez de le mater comme ça. Je vous rappelle que vous êtes mariée. D'ailleurs, si vous voulez passer un message à votre mari.
Quand la marmite est usée, on la jette et on en prend une plus jeune.
Oh là,
non, elle est jeune mariée.
C'est pas de mal à veille, monsieur.
Je ne vois vraiment pas ce que vous trouvez à Anis, et pourtant.
Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures d'une compétition acharnée entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 et parmi eux un champion hors catégorie. Le cerveau de Steve Jobs, le corps de Jamie Foxx dans Django Unchained. Fort de ce combo imbattable, il domine le championnat Europe 1 avec 32 points. Anis et Mbida, vous nous parlez cet après-midi de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la police. Je pose la question, les policiers avaient-ils vraiment besoin de l'intelligence artificielle pour les aider?
Allô, bonjour madame. Oui, tentative de viol. D'accord, nous arrivons immédiatement, madame. Là, on nous a appelé pour un viol. Nous y allons donc immédiatement.
Quelle adresse?
Attendez, chef, je vais la rappeler. Ouais, t'as le numéro?
Anisek, qu'est-ce que c'est
mais
que
là,
cette histoire?
Pardon, oui. Vous voyez, nous, ça nous fait rire, oui. Les sketchs des inconnus.
Ah,
mais Bilal,
connaît pas,
il connaît
sketch
pas les inconnus.
Je connais les inconnus, mais je connaissais pas ce sketch.
Ça commence à remonter. Avec... Ah oui, le sketch.
Et oui.
Oui, quand ils attendent 3 heures pour monter à l'étage, ils prennent l'ascenseur et l'ascenseur ne marche pas. Un quart d'heure plus tard, ils se décident à prendre l'escalier. Anisek, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'intelligence artificielle qui va nous aider à compter enfin les manifestants?
L'idée, c'est d'en finir avec toutes les polémiques qu'il y a aujourd'hui, quand il y a la moindre manifestation. L'idée, c'est de compter physiquement, d'avoir ne plus faire d'estimation, mais d'avoir un comptage extrêmement précis des personnes présentes. Alors, comment ça va fonctionner? On va soit utiliser des hélicoptères, des drones ou des avions pour faire des photos aériennes. Non, mais il y a souvent des manifestations qui sont surveillées par la police. On fait des photos d'ensemble. Et de cette photo-là, on va être capable de compter. Enfin, c'est une intelligence artificielle qui va le faire, parce que vous imaginez, de faire
c'est
quand même extrêmement
si
compliqué. Et donc, il va compter chaque personne une par une. Là où ça va très loin, ce système, c'est si une personne est masquée par un arbre ou masquée par une banderole, le système est capable d'extrapoler en fonction des gens qui sont à côté, en fonction de la topologie, etc.
Ça a déjà été testé quelque part, votre truc?
Alors, ça a été testé quelque part sur les images sur la manifestation à Barcelone. Vous savez qu'il y a des manifestations en Catalogne aujourd'hui. Alors, ça n'a pas été fait sur celles qui sont lieu actuellement, mais sur la principale manifestation qui avait lieu en 2012. À l'époque, on parlait d'une affluence record, 2 millions de personnes selon les organisateurs, 1,5 million selon la police. Et vous savez combien le logiciel on a compté réellement?
La vérité était entre les deux, non?
Non,
elle était plus basse encore.
500 000 personnes, 4 fois moins que les estimations. Donc, ça montre le décalage qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les estimations qui sont faites soit par la police, soit par les organisateurs, et ce que peut compter ce logiciel. Alors là où ça va, c'est très intéressant, c'est que ça ne va pas être utilisé uniquement pour les manifestations, c'est aussi utilisé pour tous les mouvements de foule. Par exemple, ça va être utilisé au Qatar pour les Jeux la Coupe du Monde de football, parce que quand il faut planifier des secours, on a besoin de savoir d'estimer à peu près la foule, le nombre de personnes qu'il y a. Donc l'affluence aux abords des stades va être surveillée par des hélicoptères, des drones, je ne sais quel appareil, ou même des caméras qui sont à distance. On saura exactement le nombre de personnes qui sont présentes sur un lieu, et ça va permettre comme ça de dimensionner les secours. Donc pour les journalistes, ça va être plus intéressant, pour les organisateurs également, mais aussi pour les secours.
Mais aujourd'hui, comment on calcule? C'est vrai que ça paraît compliqué.
Il y a plusieurs méthodes, et la première méthode, c'est le doigt mouillé, tout simplement. On estime, il y a 200 000 personnes.
Mais c'est pas comme ça qu'ils font quand même.
Si, ça se fait. D'autres font, utilisent les personnes qui se sont inscrites à la manifestation. Donc ils regardent, il y a tant de personnes qui sont inscrites, donc ça fera le nombre de présents.
On compte en mètres carrés aussi.
Et sinon, les journalistes ont commencé à dire, il y en a marre un peu de cette course. Donc les journalistes, plusieurs chaînes de télé et plusieurs journaux se sont mis d'accord pour un système de comptage. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur une zone 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, on compte le nombre de personnes, et puis après, on extrapole sur toute la distance de la manifestation. Donc évidemment, ça produit des erreurs avec des rapports de 1 à 2 ou de 3 à 4. C'est pour ça que c'est intéressant que cette estimation soit faite par des indépendants, parce que quand on demande de compter et que les gens sont un peu partisans, et bien évidemment, on ajuste parfois mal. Et là, on pourra le faire, enfin, on va pouvoir compter précisément tête par tête, de façon même automatique. C'est-à-dire que si c'est un hélicoptère qui passe, il pourra, en analysant l'image, dire « il y a tant de personnes ».
Quand Bilal Hassani fera le Stade de France, dans peu de temps, on saura exactement si vous avez 80 000 personnes ou 79 000 personnes.
Sauf qu'eux, ils auront payé, donc la billetterie le saura.
Exactement.
Il y a aussi les concerts en plein air, qui eux, n'ont pas forcément une billetterie.
Là, on pourra savoir exactement combien il y avait de personnes à Hyde Park, par exemple. Bravo en tout cas à Anisek Mbida. Votre chronique aura-t-elle séduit notre invité? Réponse juste avant 18h.
Europe 1.
À suivre, comme on perd désormais statistiquement 17 minutes par soir à choisir ce qu'on va regarder sur Netflix et qu'on sort, on a décidé de vous faire gagner du temps en opérant la sélection pour vous. À la base, c'est moi qui devais parler série, cinéma, mais la direction m'a dit « Non, Matt, c'est pas que tu sois pas suffisamment cinéphile, mais on préfère que ce soit Eva qui s'en charge. » Jamais compris pourquoi, je suis assez cinéphile, je l'ai encore démontré hier.
Je savais qu'il y avait des origines hawaïennes, c'est pour ça que j'ai eu un doute au début, mais la description du prénom, non, c'était pas possible.
Il est canadien aussi.
Il est un peu tout cunu. Kinu. J'ai dit Kinu, ça arrive au meilleur. Kinu Reeves, c'est mon acteur préféré.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, plus qu'une émission, une famille. Et en famille, c'est vrai, on se chamaille. Mais surtout, on s'aime. Avec Eva, on s'aime tellement que parfois l'invité croit qu'on se pécho. Comme Catherine Sellac hier.
Ah mais vous vivez ensemble?
Non.
Non, désolé, chers auditeurs, je préfère mettre les points
du
sur les
type,
i.
Du type, non, surtout pas.
Surtout pas. Avec Eva, on n'a jamais été attirés l'un par l'autre.
Oh, t'as pas toujours dit ça.
Oui, mais j'étais bourré. Bref, c'est avec un grand plaisir qu'on accueille parmi nous aujourd'hui le dernier représentant français à l'Eurovision, Bilal Hassani, pour son livre témoignage singulier chez Plon, l'histoire d'un enfant humilié devenu roi. Quand je rêve, je suis un roi.
L'histoire Bilal, c'est celle d'une ascension, mais pas que. Même quand vous vous sentez mieux, quand vous avez la reconnaissance des millions de vues sur votre chaîne YouTube, vous racontez et qu'il en faut peu pour vous ramener à la case départ, comme une audition pour X Factor à Londres face à Robbie Williams.
Oh my God, ouais. Robbie Williams, Simon
Cowell. Moi, c'est mon
idole,
Robbie Williams. Alors, ça m'a énervé ce passage.
Bah, moi, j'aime toujours beaucoup Robbie Williams, mais il n'a pas été très sympa avec moi.
Il a été cool, Robbie.
Mais il m'a donné un yes quand même.
Ah.
Mais il a été... Oui, j'ai eu 4 yes.
Mais qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Il m'a dit que j'étais pas. Que j'étais le genre de performance qui l'amusait une fois, mais qui ne serait pas genre, hyper fan de me voir plein de fois.
et que
je devrais faire l'Eurovision.
Ah bah, quoi ?
Comme quoi ? Il m'a dit ça un an en avance. Donc, il y avait Simon Cowell, Robbie Williams, sa femme. Donc sa femme qui était juge aussi. Et il y avait Louis Tomlinson qui est un ex-membre des One Direction. Et moi j'étais obsédée par les One Direction, donc ça m'a fait tout drôle d'auditionner pour eux. Et ouais, c'était un peu particulier. C'était une audition très difficile parce que je suis arrivée à 6h du matin dans les studios et j'ai eu mon audition à 00h30. Et la moitié de la Wembley Arena était, même pas la moitié, les trois quarts étaient vides parce que les gens étaient rentrés chez eux en fait, donc il n'y avait plus grand monde dans le public pour regarder l'audition. Et les, bah, eux, ils étaient fatigués aussi. Et donc j'ai fait mon truc, moi aussi j'étais exténuée, donc j'ai essayé de tenir le coup, mais j'étais au bout de ma vie. Et au début, c'était pas du tout sympa. Et après, ils m'ont dit yes. Et j'étais là, ah, mais c'est super bizarre, vous avez pas été super cool. Et vous me dites oui quand même. Pour qu'au final, on me rappelle 2 semaines après, qu'on me dise, on a donné trop de oui à trop de monde. Donc on doit faire un petit cut. Donc on n'a pas besoin de vous pour la prochaine étape.
Mais c'est horrible.
Et c'était émotionnel.
Et c'était le moment où je venais d'arriver à Londres en plus. Donc c'est-à-dire qu'on est venu, sachant que. On roule pas dans l'or, donc on est allé en bateau à Londres avec ma maman. On a perdu la voiture dans le bateau au moment où on arrivait, donc on se disait qu'on allait se faire écraser parce que toutes les voitures sortent en même temps. On retrouve la voiture, on sort, et là on a le monsieur qui fait Hi, this is Michael. Désolé, on n'aura pas besoin de vous demain et tout. Et bah, mais on est déjà arrivé. Il fait bonne nuit à Londres et rentrez à Paris.
Et
donc voilà, c'est ce genre d'épisode où ma mère m'accompagne et qu'elle se dit et que ça me surprend qu'elle ait encore la foi et qu'elle ait encore la détermination et qu'elle me suive encore. Mais bon, voilà, deux mois après ça, on a eu la fameuse signature. On a commencé à faire l'album, on a écrit Roi et après. Ouais. C'est parti, donc le destin a bien fait les choses.
La roue tourne à tourner, comme disait Franck Ribéry.
Ouais, exactement.
Bilal, il l'a dit.
Vous êtes
hyper actif. Est-ce que vous avez encore le temps de regarder Netflix ?
J'ai complètement le temps de regarder Netflix. J'ai trop hâte qu'on parle de ce qu'il y a sur Netflix en ce moment.
Alors,
parce que j'adore
justement,
Netflix.
Selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix. Heureusement, il y a désormais Eva Rock. 17 minutes de gagner. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir ?
Ah, alors, on va pas aller sur Netflix. Je vais vous proposer autre chose parce que je profite de votre présence, Bilal, et de votre admiration pour David Bowie.
Oui.
Pour vous recommander un excellent documentaire qui a été diffusé il y a quelques jours sur Arte, mais qui est toujours disponible sur le site arte.tv. Ça s'appelle Glam Rock, Splendeur et Décadence. Alors en fait, on est dans les années 70. Les Beatles, ils ont quitté la scène rock. Le rock doit se réinventer et va le faire à coups de musique électrisante et de paillettes sur les joues. Marc Bolan du groupe T-Rex ou encore David Bowie débarquent et ils vont vraiment tout bouleverser sur leur passage. Comme ce jour de 1972, Bowie, cheveux longs, ultra maquillé, campé dans des vêtements collés au corps, il participe à la mission célèbre qui s'appelle Top of the Pop.
Ouais.
Et c'est une déflagration.
Bowie enlace son guitariste Mick Ronson et les deux hommes multiplient les simulacres de séduction propres à faire imploser le parc entier des téléviseurs du Royaume-Uni. De mémoire de teenagers qui assistèrent à cette cérémonie queer et gagnèrent ainsi plusieurs siècles dans l'acceptation d'une identité alternative à la norme, il y a un avant et un après Starman.
Il y a un avant et un après Starman, il y a un avant et un après Bowie, évidemment. Bowie, à l'époque, il chante « Faire l'amour à son ego », c'est une des paroles de ses chansons, tenue extravagante donc pour cette génération d'artistes qui prenait la liberté et l'insouciance. Et c'est le journaliste, Christophe Comte qui passe en revue alors les carrières de Bowie et de Bolan dont on vient de parler, mais aussi Elton John ou encore Freddie Mercury, je crois que vous l'admirez également. Tous ceux qui ont mêlé à la fois les genres sexuels et les genres musicaux en à peine 5 ans, cette période qu'on appelle le glam rock, c'est vraiment que 5 années dans la musique. C'est une histoire qui est passionnante et qui est racontée par Rebecca Manzoni, dont vous venez d'entendre la voix, et qui est à découvrir, donc c'est gratuit et c'est sur arte.tv.
17 minutes de gagner.
Vous avez vu ça?
Merci, vous regarderez. Merci.
Mais moi, j'ai l'application de Arte sur mon téléphone.
Voilà,
j'aime
trouver.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'il propose. Je suis ultra fan d'Arte et je vais complètement regarder. Le glam rock, je trouve que ça a eu une influence très, très forte en fait sur la pop culture d'aujourd'hui, sur ce
tout
qui se
fait.
Passe actuellement sur la scène musicale, bah, notamment avec Lady Gaga et tout, qui sont vraiment fortement inspirés de ces artistes-là. Et cette période-là, j'aimerais bien mettre mon nez un peu plus dedans.
Alors, si vous avez l'application d'Arte, vous tapez simplement Bowie dans le moteur de recherche d'Arte. Mais surtout, c'est que vous allez avoir d'autres documentaires
choses.
Et des programmes courts, notamment, qui sont formidables.
17 minutes de gagner. Merci, Eva Rock.
Europe 1.
À suivre, elle a été si élégamment présentée hier par Eva Rock qu'elle avait hâte de revenir.
Elle écrase tout sur son passage.
Le bulldozer Roger est de retour avec un sujet qui devrait alerter les parents, l'essor du chemsex, cette pratique qui consiste à prendre de la drogue pour se désinhiber avant de faire l'amour. Eva a essayé une fois.
Baladons-nous joyeusement la bite à l'air.
C'est pas joli joli le chemsex.
Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage se poursuit. Deux heures d'une compétition un peu folle dingue entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui guerroient au service de votre culture G et sous l'œil d'un invité d'honneur qui votera lui aussi pour son chroniqueur préféré. Deux heures qui passent vite, mais bon, certains invités ont quand même des techniques pour que ça passe encore plus vite, comme Catherine Sellac hier.
Effectivement, ça a demandé peut-être quelques verres de vin blanc. Ça peut aider.
Avec nous aujourd'hui, le phénomène Bilal Hassani venu nous présenter son livre Singulier, paru chez Plon. On continue d'en parler ensemble, mais vous le savez, la compétition continue avec notre dernière candidate en lice aujourd'hui. Il y a quelques jours encore, grisée par son statut de leader au championnat européen, elle se baladait dans les couloirs d'Europe 1 en chantant
« Je suis toutes les femmes ».
Depuis qu'elle n'est plus que deuxième du classement, elle la ramène un peu moins. Ève Roger, cet après-midi, vous lancez une alerte.
Non, mais je préfère terroriser Anissé qui est premier. Être premier, c'est difficile, on a peur d'être détrôné.
C'est confortable,
mais terroriser, c'est bien quand même. Donc je vais vous parler d'une chose qui va nous terroriser aussi, c'est le chemsex, expression qui vient de chemical sex, c'est-à-dire qui consiste à prendre des drogues pour une relation sexuelle, avec des chemsexeurs issus du milieu gay. Alors bien sûr, vous allez me dire que ce n'est pas nouveau de faire l'amour sous l'emprise de la drogue, en particulier dans ce milieu.
Le poppers, c'est
évidemment
vieux comme le monde.
Dans les années 70,
le monde,
puis
mais...
la cocaïne, la période MDMA, puis l'ecstasy. Mais là, le principe ne consiste pas à prendre des substances un peu au hasard avant de partir en soirée ou en boîte, puis de finir sa nuit avec un ou plusieurs partenaires sexuels éventuellement. Non, là, l'idée, c'est de se donner rendez-vous à l'avance pour consommer ensemble certaines drogues bien précises et ensuite avoir des relations sexuelles à deux, mais le plus souvent à plusieurs, je dirais même une dizaine, une sorte de sex-party sous drogue organisée sans aucune improvisation.
Et avec quel type de drogue ça se passe alors
ça ? Ça, c'est justement très précis, c'est un cocktail de stimulants et de désinhibants. Des stimulants qui peuvent être des NPS, nouveaux produits de synthèse ou des méthamphétamines pour gagner en énergie, en excitation, en puissance, en clair, un effet cocaïne démultiplié. Des stimulants donc et du GHB, vous savez ce qu'on appelle la drogue du violeur, parce qu'il désinhibe, provoque un effet d'hypersensualité, donne envie de toucher et d'être touché. Donc un cocktail qui permet de tenir longtemps, une nuit, voire deux nuits, dans le milieu.
Deux nuits d'affilée ?
Oui, dans le milieu, certains parlent même de marathon sexuel.
Mais alors, qui pratique ce chemsex ?
Alors, c'est surtout le milieu gay, je vous l'ai dit. Plutôt les moins de 40 ans, nous dit une étude de la DGS, la Direction Générale de la Santé, qui a mené quand même une étude en mai 2019. Le recrutement des partenaires se fait sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres ou dans les groupes WhatsApp, pour des soirées très ritualisées. Ce sont des amateurs de sensations fortes, on s'en doute, à la recherche d'un état proche de l'animalité, puisque la drogue, et cette drogue-là en particulier, permet de perdre tous les contrôles, toutes les barrières et tous les freins.
Et alors, quels sont les dangers du chemsex ?
Ben c'est pour ça que les autorités sanitaires s'inquiètent, parce que justement, ils s'inquiètent de cette perte de contrôle qui est liée à cette drogue en particulier. Alors d'abord, il y a évidemment les risques de transmission des maladies sexuellement transmissibles, sida, hépatite C, syphilis. On imagine bien que le préservatif ne fait pas partie du
pourquoi
décor de ces soirées-là.
Si sont organisés, si les mecs se donnent rendez-vous avec telle drogue.
Ils sont hors contrôle.
Ah oui. Une fois que ça a commencé,
on n'a plus le contrôle de la prévention. Donc les spécialistes qui ont réfléchi sur le sujet disent qu'il faut prendre soit le traitement préventif contre le sida, vous savez ce qu'on appelle la PrEP, ce sont des cachets qu'on prend avant les rapports sexuels, soit un traitement a posteriori. Et puis pour le reste, c'est des dépistages tous les trois mois pour être sûr de ne pas être malade de ces autres maladies. Et puis les risques directs de ces drogues pour la santé, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, le coma, parfois même jusqu'au décès, c'est le cas du GHB aussi. Et puis enfin, les risques d'addiction, certaines de ces drogues sont extrêmement environnement addictogène. Une soirée chemsex pour les spécialistes de la prévention, ce n'est pas plus d'une fois par mois, parce que c'est la seule façon pour eux de ne pas basculer dans l'addiction.
Mais on sait combien de personnes ça concerne, ce phénomène? J'avais déjà lu dans la presse un article là-dessus, mais il n'y a pas vraiment de chiffres.
L'étude prend des gens qui la pratiquent, donc on ne peut pas dire par rapport à la population, mais c'est évidemment une toute petite minorité. Mais le risque, c'est aussi que cette pratique, parce qu'on sait que les gays ont un rôle de précurseur dans la société, que ça puisse s'étendre à d'autres parties de la population.
Non, mais pardon pour la question, est-ce que cette drogue dont vous parlez, donc ce cocktail, est facile à faire et à obtenir, ou c'est quand même compliqué et bon,
Alors, je ne sais pas si je peux le dire.
Vous pouvez tout dire ici, Roger.
Est-ce que je peux le dire à l'antenne? C'est-à-dire qu'en fait, ça s'achète sur Internet, sur des sites qui sont spectaculairement marketing, puisqu'on dirait des laboratoires pharmaceutiques.
Donc il faut alerter là-dessus.
On l'achète assez facilement. Mais après, quand on reçoit ce produit-là, dans le produit dont je vous ai parlé, ce n'est pas sûr que ce soit bien le principe actif qui est dedans. Donc, il y a un réel danger, là aussi, pour la santé.
Mon Dieu.
Bilal Hassani, ça a l'air de vous faire peur, tout ça.
Ah, ça me terrifie, moi. Tout ce qui est drogue, je n'aime pas. Je sors pas trop en boîte de nuit parce que c'est un monde qui me... ça me fait froid dans le dos et je bois très 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 peu. Juste ça, alors les drogues, c'est ouf, je sais pas. Ça me... Mais donc tout ça pour faire un marathon sexuel, c'est donc tout un cocktail de drogue risque d'attraper genre
c'est beaucoup de risques
de MST,
c'est ce qu'on appelle les pratiques extrêmes, quoi. Et surtout dans ces soirées là alcool interdit, parce qu'on ne peut pas mélanger l'alcool et ces produits.
Ah ben non, surtout pas, on fait un cocktail entier avec...
On se défonce mais on est rigoureux. Bilal Hassani, en juin dernier vous avez été élu personnalité de l'année LGBTI, lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, intersexe, lors de la cérémonie des Outdoors. Néanmoins, vous restez complètement lucide là-dessus. Il y a pas mal de médias qui vous reçoivent en se disant « C'est bon, on accueille un homo qui chante avec une perruque, on a fait notre boulot, tout est réglé avec le problème de l'homophobie. » Vous dites ça, c'est assez malin. Vous savez bien qu'il faudra beaucoup plus pour changer les mentalités.
C'est vrai, à partir du moment où on est obligé d'avoir une cérémonie qui récompense exclusivement les personnes de la communauté LGBTQI, ça rend la chose un petit peu... niche directement, et ça nous met encore dans cette case un peu genre extraterrestrielle, genre ils sont bizarres dans leur coin. Et aussi moi j'essaye toujours de faire très attention à pas rentrer dans le jeu trop du médiatique du regardez, on l'a lui, il est très bien, tout va bien, la tolérance est à son comble, c'est un homosexuel avec une perruque qui a représenté la France à l'Eurovision, tout va bien dans le monde, c'est faux. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui... On devrait encore pouvoir évoluer beaucoup, beaucoup, beaucoup dans, j'espère, prochainement.
Oui,
c'est important.
On l'espère aussi. Il se raconte dans un livre comme lui, singulier chez Plomb. Bilal Hassani passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, nos estomacs commencent à gargouiller. Eva, une idée futée pour l'inné de ce soir? Je vois que vous avez déjà réuni certains ingrédients. C'est quoi ce bol de farine?
Il en faut, hein. C'est la drogue.
Ah oui, non. Alors on demandera plutôt une recette à l'ami Olivier Pouls qui arrive pour vous sauver la mise une fois de plus avec une petite recette dernière minute facile et surtout légale. Délice in extremis arrive, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage, la grande pompette des journalistes de la Réda continue, toujours en présence comme chaque après-midi d'un invité d'honneur, un invité qui se montre généralement encourageant avec nous, mais entre être encourageant et lucide, il faut parfois faire un choix. Catherine Sellac l'a fait hier alors qu'on discutait de sa longévité dans Thé ou Café, 22 ans.
T'imagines si on vivait pendant 22 ans dans la même émission?
Oui, on va déjà essayer de faire pendant 22 mois.
À 22 jours, vous les avez passés les 22 jours.
22 semaines, c'est pas fait. Hein.
Surtout sur Europe 1.
Comment ça, surtout sur Europe 1? Perfide Catherine Sellac. Aujourd'hui, c'est le dernier représentant français à l'Eurovision, le roi de YouTube, Bilal Hassani, qui nous accompagne.
Je reste fort et je me répète, encaisse les coups, c'est tous des jaloux. Jaloux, 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 jaloux.
Vous connaissez son look, un tantinet extravagant sur scène, mais qu'y a-t-il derrière? Il vous le raconte dans Singulier, un livre qu'il publie chez Plomb, un livre où vous parlez sans tabou, vous évoquez aussi cette difficulté d'avoir une vie sentimentale épanouie quand on est ado et homosexuel. Vous dites, tu passes de l'enfance au sexe parce que c'est interdit d'être heureux au grand jour, parce qu'il faut faire vite quand la honte fait le guet.
Ouais, alors c'est un petit peu... c'est court parce que j'en parle vraiment longtemps, mais il y a cette chose en fait... Pour les jeunes personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, en fait, où tu ne peux pas assumer quand tu es au collège ta relation, et généralement tu es un peu tout seul à être conscient même de ta sexualité au collège où vous êtes très peu. Donc moi j'étais tout seul Et donc, il y a cette chose que tu ne vis pas. L'expérience du flirt à l'école, la petite amie avec qui tu tiens la main, tu partages une chaise à la cantine, on se fait des bisous sur la joue et on se laisse des mots. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Et en fait, tu es confronté très vite à cet aspect plus vulgaire de l'amour, cet aspect plus adulte de l'amour, qui est le sexe. Et en fait, moi, c'était ma première rencontre avec, toute forme d'amour. Et pour beaucoup de jeunes comme moi, en fait, c'est ça. Et ça traumatise un petit peu, en fait. Il y a cette perte de confiance en soi, un petit peu. Et cette façon, un petit peu, d'avoir du mal à... Moi, je ne sais pas comment parler à... draguer ou avec un garçon, un truc comme ça. Et même les premières expériences que j'ai vécues amoureuses, j'en parle dans le livre. Et si j'en ai parlé, c'est vraiment parce que c'était important pour moi de raconter ça pour ceux qui vont lire, parce que je sais qu'il y en a plein qui ont vécu et qui vivent la même chose que moi. Je voulais vraiment pouvoir leur dire que oui, moi aussi, ça m'est arrivé. C'est qu'il y a beaucoup de garçons qui sont un petit peu perdus, qui vont essayer des choses avec toi, et tu vas devenir un peu leur cobaye, et ça devient quelque chose de avec du recul. Moi, j'ai beaucoup de regrets, et j'aurais bien aimé que ça se passe pas comme ça, mais je voulais en parler, c'était important pour moi de mentionner ça dans le livre.
Vous estimez que vous vous êtes fait virer de votre collège à cause de votre homosexualité ?
Oui. Oui, exactement.
Le prétexte officiel, c'était que vous étiez trop bavard, mais pour vous, c'est pas ça.
Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une relation sexuelle avec un garçon qui était dans la même classe que moi. Ça s'est répandu comme une petite rumeur dans l'établissement, mais c'était une rumeur. Donc rien ne pouvait prouver que ça s'était passé ou non, et donc on avait joué un petit peu sur le... En gros, lui, il avait été très contrarié quand il avait appris que ça se savait, donc il m'avait dit t'en parles pas et tout, tu dis que c'est faux et tout, mais malgré tout, donc les profs et tout ont commencé à en entendre parler, et donc c'était devenu bizarre, mes relations avec mes professeurs, tout simplement, c'était très tendu en fait, et un jour on est venu me chercher en cours, et on m'a dit t'as conseil de discipline après-demain, et j'ai fait hein, pourquoi? J'avais 17 de moyenne, j'étais un élève assez modèle, donc je comprenais pas ce qui se passait. Et on m'a renvoyé c'était quoi? J'étais trop distrait et je déconcentrais mes camarades de classe.
Sexuellement.
Avec ma présence. Voilà.
Sous la perruque blonde platine, une tête très bien faite, découvrez-le dans Singulier, paru chez Plomb. Bilal Hassani, notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, une fois de plus, étourdi que vous avez totalement oublié de réfléchir à une recette pour le dîner de ce soir. Qu'à cela ne tienne, l'équipe est sauvage est là pour vous sortir d'affaires. Initialement, c'est Anis Mbida qui devait assurer notre rubrique gastronomique, mais finalement, afin de ne pas avoir à interdire l'émission aux moins de 18 ans...
Avec la bonne saucisse, là, qui brille tellement elle est grasse, t'appuies dedans, ça gicle...
On a décidé de confier plutôt la séquence à un autre journaliste spécialisé, lui, Olivier Pouls, arrive pour Délices in Extremis.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe sauvage, l'émission qui chérit vos zygomatiques, nourrit votre cerveau, mais qui n'oublie pas pour autant votre estomac. Car ici, on a faim assez tôt, surtout Eva, qui dès 6h moins le quart, hurle souvent. Dans ces cas-là, comme à part son bol de farine, elle n'a pas le commencement du début d'une idée, on appelle Olivier Pouls pour Délices in Extremis. Bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, dans Délices in Extremis, vous avez décidé de travailler la Saint-Jacques, c'est-à-dire en fait la seule chose que je n'aime pas.
Ah bon ?
Et
je
me demande si vous foutez de ma gueule ou pas.
Mais je ne sais pas si je vous inviterai encore, surtout. C'est bien ça. Je me fais fort peut-être de vous convaincre.
Je suis sûr qu'avec vous, je vais aimer.
Et de vous la faire aimer. Alors la Saint-Jacques, c'est un produit magnifique, c'est un produit d'hiver, la pêche autorisée a commencé.
Avec un drôle de goût, cela dit.
Non, pas du tout. La pêche a été autorisée, l'ouverture de la pêche a commencé il y a quelques semaines seulement sur nos côtes françaises, et elle va se terminer aux alentours de la fin du mois d'avril, parce qu'on est malin en France, en tout cas on est pragmatique, et on ferme la pêche durant la période estivale, pendant la période de reproduction, pour justement préserver nos ressources. Et il faut rendre hommage aux autorités françaises qui protègent la Saint-Jacques, ce que ne font pas, par exemple, les Anglais qui pêchent toute l'année, et ça c'est lamentable.
Salaud de Rosby. Je traduis pour nos auditeurs la pensée complexe et peu diplomatique d'Olivier Pouls.
Donc, nos Saint-Jacques que nous avons là, et qui sont magnifiques, on pense que c'est très cher la Saint-Jacques, ça reste un crustacé abordable. Si on l'achète bien, moi j'en trouve au marché à Paris, c'est dire, c'est quand même pas l'endroit le meilleur marché de France, autour de 6 euros le kilo. Alors le kilo avec les coquilles, une fois qu'on a décoquillé les Saint-Jacques, avec un kilo et demi pour deux personnes, il y a un plat entier à manger. La Saint-Jacques, il y a deux manières de la faire. On la cuit ou on la mange crue. Je vais vous proposer crue aujourd'hui, ce qui nous donnera peut-être une autre chronique pour une autre semaine.
Bien joué.
Voilà. Donc, en carpaccio, taillé fin, mais pas trop, pour garder un petit peu de mâche. Et là, il faut être très subtil dans l'assaisonnement. C'est-à-dire que c'est un tout petit peu d'huile d'olive, mais vraiment très peu pour ne pas masquer la Saint-Jacques, parce que son goût délicieux, justement, mon cher Mathieu, est très subtil.
Oui, moi, je mettrais beaucoup d'huile d'olive.
Un petit peu de fleurs de sel. Je râpe un tout petit peu de parmesan et un fin trait de filet de citron. Ça, c'est une recette qui marche de manière hyper efficace. Mais alors, j'en ai une autre que je m'attribue d'ailleurs, parce que je pense être l'inventeur de cette association diabolique.
C'est la Saint-Jacques Pouls.
Non, oui, on pourrait l'appeler comme ça. C'est simplement une Saint-Jacques crue, un morceau de Saint-Jacques crue, la couper, mais vraiment en deux, là, pour vraiment garder de l'épaisseur, et vous posez dessus un petit morceau d'anchois. Et je vous garantis que l'association...
Comme ça, on a la combinaison des deux trucs que je déteste le plus.
Ah non, j'adore.
C'est magique, c'est une explosion de saveur en bouche.
Peut-être que moins et moins font plus, peut-être que pour moi, ça va me plaire. Ouais.
Voilà, venez à la maison, je vous fais ça.
Rien. À la maison, il y a le printemps.
Je vous émincerai des Saint-Jacques et je vous poserai des petits morceaux d'anchois dessus et vous verrez, vous serez conquis. Et puis il y aura évidemment le vin blanc qui va avec.
On dirait presque le dialogue d'un mauvais film érotique.
Oui,
c'était Olivier Pouls pour Délices in Extremis. Olivier Pouls que vous retrouvez chez Laurent Mariotte chaque samedi à 11h sur Europe 1 dans la table des bons vivants. Merci Olivier.
Europe 1.
Bilal Hassani est avec nous jusqu'à 18h. Eva, vous le sentez venir ?
Je te sens venir.
Oui, non, vous sentez venir la fin de l'émission, je veux dire. Le dénouement quasi orgasmique, c'est vrai, où nous allons découvrir qui parmi nos journalistes a été élu chroniqueur du jour. Anis et Mbida va-t-il une fois de plus l'emporter ? Comment trouvez-vous vos concurrents à l'approche du verdict ?
Ils ont changé de couleur, leur texture n'est plus du tout la même.
Eh oui, ils flippent, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
C'est le moment décisif, la fin d'une longue attente, car comme nous tous dans le studio au terme de cette émission, vous n'avez qu'une seule envie, qu'une seule obsession.
S'envoyer en l'air avec Anis Mbida.
Oui, non, aussi, mais non, Eva, connaître le nom du vainqueur, bien sûr. Qui va être sacré aujourd'hui, chroniqueur du jour, Eva? Dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Eh bien, bis repetita, et non. Avec les mêmes proportions,
non.
C'est Ève Roger qui gagne encore les deux points des auditeurs avec 35% des votes.
31. Ève Roger, 31 points,
ça
n'est plus qu'à
pas.
Un point d'Anissé Mbida.
Oh, un point d'Anissé Mbida.
Vous n'êtes qu'à un point. Vous êtes au touche-touche, si j'ose dire. Si j'ose cette image. Alors moi, à qui je vais donner mon point? Vais-je donner une longueur d'avance à Anissé? Certainement pas. C'est à Nicolas Carreau que j'offre mon point aujourd'hui, car je suis fan de Tolkien et je trouve que cette exposition, pour laquelle j'imagine des places, des billets gratuits.
On va se débrouiller.
Vous vous débrouillerez. Évidemment, c'est la moindre des choses. Vous avez fait la pub. Mais vous le savez ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur. Attention, Bilal Hassani, votre voix compte triple. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
J'ai beaucoup réfléchi. J'ai hésité entre deux personnes. Je ne dirai pas qui.
Ah oui,
je vais juste donner, mon
oui.
vainqueur
oui.
qui est. Ève Roger.
Ève Roger qui prend la tête du championnat, qui retrouve son statut de leader. Bravo. Ève Roger, venez enfiler cette couronne, Ève, qui est pour vous, mesdames et messieurs. C'est donc...
Tu sens mon souffle dans ton cou.
Je ne sais pas comment interpréter ces propos. C'est Ève Roger qui remporte la 43e journée de l'équipe sauvage. On remercie chaudement Bilal Hassani, notre invité du jour. Son livre singulier, plus qu'un témoignage, un message d'espoir pour tous les ados et jeunes adultes qui se sentent différents. Merci beaucoup Bilal Hassani d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci également à ma brochette de winners, Eva Rock, Ève Roger, Alain Sirou, Anissé Mbida, Nicolas Carreau. L'équipe est sauvage revient demain 16h. Tout de suite place à l'information avec un grand i sur Europe 1 avec les tic et tac de l'info. Qui fait tic, qui fait tac. Je vous laisse le temps de le deviner. Voici Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir
Mathieu Noël. Non, pas bonsoir Mathieu Noël. Non, c'est interdit. On va s'arrêter là. On va changer de mois bientôt en novembre. Il faudra évidemment cesser ce petit jeu.
Europe 1. 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.